Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Pendant que les derniers petits problèmes techniques se règlent, je vais en profiter pour vous présenter nos invités de cette table ronde. Et je vais commencer par celui qu'on ne présente plus, Gérard Klein, ici présent. Alors Gérard, vous regarderez sur Internet parce que je ne vais pas tout pouvoir dire tellement c'est immense ce qu'il a fait, mais juste pour vous donner quelques points de repère, Gérard est le créateur et il a dirigé pendant très très longtemps une immense collection de science-fiction qui s'appelle Ailleurs et Demain, une collection aux jolies couvertures argentées ou dorées. Vous en trouverez de nombreuses en librairie. Si vous passez, vous ne pouvez pas les rater.
Et aussi, j'y tiens beaucoup, la collection science-fiction de livres de poche.
Tout
j'ai publié encore plus de titres et dont je suis au moins aussi fier que pour Ailleurs et Demain. Excuse-moi de t'avoir interrompu.
Il est également auteur, sous deux noms, Gérard Klein et Gilles Dargir. Il est également économiste, prospectiviste. Il a marqué de son empreinte la science-fiction française. Certains le surnomment même Dieu.
Bref. Je rappelle que mon immortalité est provisoire.
Et il est également un immense préfacier. Combien as-tu fait de préfaces, Gérard ?
Oh, certainement plus de 100, probablement moins de 500. Non, 300 peut-être, préface et article, ça. J'ai essayé de faire une biographie, je me suis arrêté à 250 par pure paresse.
À la droite de Gérard, nous avons David Javé.
Bonjour.
Donc David est chercheur à l'Université de Lausanne, où il travaille sur la science-fiction japonaise, ce qui tombe bien puisque ça va être la thématique de cette table ronde. David parle japonais, a vécu au Japon, est passionné de la science-fiction japonaise et en fait son métier, ce qui est quand même extraordinaire de pouvoir faire ce dont on est passionné.
C'est ça, exactement. Je suis en train de terminer une thèse de doctorat à l'Université de Lausanne qui est consacrée aux franchises de science-fiction contemporaine japonaise et plus particulièrement à la représentation des technologies de ce que j'appelle le prothétique, donc en opposition au robotique ou au nucléaire au Japon. Et puis l'idée, c'était aussi en partie de constituer une sorte de fil rouge peut-être autour de mes recherches pendant cette présentation ici, puis d'avoir les commentaires de mes éminents co-intervenants. Et donc, je suis aussi cofondateur du Unil Game Lab, donc le groupe d'études sur le jeu vidéo de l'Université de Lausanne. Je m'intéresse aussi beaucoup aux pratiques ludiques et aux engagements corporels, en fait, à travers le jeu. Si on n'a pas les images, je peux tout à fait faire sans.
Et enfin, Laurent Jeunefort, auteur, célèbre auteur, a publié plus de 40 romans, décidément, multiprimé, Grand Prix d'Imaginaire, entre autres choses. Laurent vient de sortir, il n'y a pas très longtemps, le troisième tome de Spire. Et lorsque vous irez en librairie, vous noterez qu'il a un illustrateur extraordinaire pour mettre en avant ses textes très puissants qui s'appellent Manchu.
Manchu, oui.
Et donc, Laurent, si tu veux nous dire quelques mots.
Non, tu as bien résumé la situation.
Et donc Laurent est fan de manga et de science-fiction japonaise.
Ah oui, un vrai, mais je vais juste intervenir comme amateur, quoi, c'est tout. J'ai aucun domaine de compétence particulier dans le domaine, je suis juste lecteur. Ça m'a juste forgé au même titre que les auteurs américains et français, quoi.
Mais justement, on peut lancer la discussion par cette remarque-là. La science-fiction japonaise est arrivée pour beaucoup d'entre nous, en tout cas les plus néophytes d'entre nous, par le biais de ces images, de ces mangas, de ces films. Je pense à Ghost in the Shell en particulier.
Bien sûr, oui. Disons, en tout cas, moi, mon processus de réflexion quand je suis arrivé à mon projet de recherche, ça c'est de manière assez amusante, ça s'est fait par la question nationale. J'ai commencé un travail de recherche en haute étude internationale où je me suis beaucoup intéressé en fait à la diplomatie publique japonaise et je suis tombé sur énormément de discours de diplomates japonais. au début du XXIe siècle, qui défendait l'idée que le Japon, sa spécificité, on est dans un discours d'essentialisme culturel, c'était l'harmonie avec les robots, l'harmonie avec les techniques, l'harmonie avec, avec la machine. Et puis, ça se confrontait complètement en fait, avec ma consommation à moi de la science-fiction japonaise, d'œuvres comme par exemple Ghost in the Shell ou de Akira, qui au contraire, s'il y a bien une chose que ces œuvres défendent, c'est des rapports beaucoup plus complexes en fait, face aux techniques et aux technologies. Et puis, en remontant un tout petit peu à la source, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire en fait donc je travaille en histoire culturelle en fait, je m'inscris dans le champ de l'histoire culturelle. Et puis j'essaye de m'opposer à l'idée, disons l'histoire japonaise a beaucoup été écrite en fait avec une idée de rupture où on pense énormément les historiens japonais, mais aussi certains historiens francophones. On aime créer des catégories, voilà, on aime créer des airs, des moments. Et j'ai essayé d'avoir une approche qui cherche plus à montrer des phénomènes de continuité plutôt que des phénomènes de rupture. Et puis les projets gouvernementaux, les discours du gouvernement et de la nation sont souvent des axes très intéressants qui montrent en fait des continuités qui vont affecter aussi les imaginaires technologiques japonais. Et un axe pour moi très important, et là on va faire un grand mouvement vers l'arrière, j'espère que vous avez les retours slides sur le côté. Je suis navré pour ce qui est écrit, peut-être un petit peu trop petit pour ceux qui sont au fond. Mais voilà, je suis tombé sur cette notion centrale au militarisme japonais de la période de guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Pacifique, qui est la notion de kokutai. Je vous ai mis ici les sinogrammes, qui sont donc deux sinogrammes, le premier étant koku ou kuni, le pays, et puis tai ou karada, qui est le corps, qui est le sujet donc, des utopiales, le corps national, qui est en fait l'idéologie militariste japonaise sur laquelle se base justement l'idéologie disons de cette période, cette idée en fait que le corps de l'empereur, c'est le corps des individus japonais. Donc ce qui arrive au corps de l'empereur est répercuté immédiatement sur le corps de la population, du peuple japonais. C'est ce qui va faire notamment que les Américains, lors de l'occupation alliée, vont décider, et ça c'est la deuxième photo que je vous ai mis ici, la deuxième représentation que j'ai mis ici, vont décider de ne pas juger l'empereur. Ce qui est contraire à ce qui se passe par exemple à Nuremberg, puisqu'on réalise qu'en fait si on atteint la personnalité de l'empereur, si on touche au corps de l'empereur, on prend un grand risque de révolte interne dans le pays. J'aime beaucoup cette photo, enfin cette photo est très impressionnante puisque très probablement elle a été prise au moment où l'empereur Showa vient rencontrer le général MacArthur qui dirige les forces alliées l'empereur vient d'apprendre que probablement il ne va pas être exécuté ou il ne va pas être jugé, que son nom ne va même pas apparaître pendant les procès de Tokyo. Et ce qui est intéressant qui va se passer dans ces liens entre corps, nation et imaginaire des technologies, c'est que les forces d'occupation, et les Américains plus précisément, vont utiliser ce kokutai, cette idéologie du corps national, pour remodeler le corps de l'empereur. C'est la deuxième photo que je vous ai mise ici, où on va le faire déambuler. On va passer d'un empereur qui était invisibilisé, donc on ne montrait pas pendant la guerre, ou très peu, à un empereur qu'on va pavaner dans l'intégralité du Japon pendant un long tour, justement, et qu'on va aussi transformer, c'est-à-dire on va l'habiller. Vous pouvez, alors la photo est peut-être un petit peu petite pour ceux qui sont derrière, mais on lui met un petit chapeau melon, on l'habille en costume. La presse japonaise va même parler de lui comme le balai. On va dire, parce que tout simplement toutes les rues dans lesquelles il va passer, on va nettoyer en fait, pour préparer justement, on va nettoyer les décombres de la guerre. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être aussi ça qui va m'intéresser, c'est que dans la suite en fait, les médias vont montrer l'empereur, vont aussi remodeler, procéder à cette remodélisation du corps de l'empereur en passant par la science et les techniques. Et notamment, on va très régulièrement, voire même intégralement, le montrer en train de consulter des documents, des livres, dans des laboratoires, en train de faire de la recherche, pour justement créer en fait une sorte d'adéquation entre une nouvelle idéologie qui se compose dans l'après-guerre japonaise, à partir donc des années 50, qui est l'idéologie, je passe un peu plus rapidement les slides pour après peut-être ouvrir sur la discussion. Je vous ai mis ici les indications. Donc, il y a une idéologie du Kagaku Gijutsu Rikoku, la reconstruction nationale par la technologie. Et c'est en ça, justement, que je vous parlais de cette idée de continuité. C'est-à-dire, alors, on n'aura peut-être pas le temps de passer à toutes ces étapes, mais il s'agit réellement d'un discours gouvernemental qu'on va retrouver encore à l'heure actuelle. On va systématiquement, en fait, remotiver dans les discours gouvernementaux l'unification japonaise à travers, en fait, cette notion de l'union par les sciences, l'union par la technologie, avec évidemment derrière un certain argument qui est l'argument que la Deuxième Guerre mondiale a été perdue à cause, en fait, d'un manque technologique. Qui rappelle d'ailleurs peut-être un petit peu aussi certains arguments américains post-Vietnam. Donc la défaite est due à un manque de moyens, un manque d'accès à ça. Et je vous ai mis aussi comme représentation ici, on fait un grand bond, ce qui est pour moi en fait le sommet de ces discours de reconstruction nationale par la technologie, qui est l'exposition universelle d'Osaka dans les années 1970, dont le thème principal était progrès et harmonie pour l'humanité. Là, vous avez vraiment ces deux éléments très importants, l'élément d'innovation et l'élément d'harmonie. On est déjà en train de composer en fait ces discours que vous allez énormément retrouver aussi dans la presse française, dans la presse francophone. Cette idée un peu de ces discours un peu d'équilibre, harmonieux. Voilà. Les Japonais, il s'agirait du peuple qui sait vivre avec les robots, qui sait vivre avec le technique. Voilà. C'est un peuple en avant, justement. Il y a une acquisition, c'est Asō Tarō, qui était Premier ministre en 2009, qui dit justement dans un de ses discours diplomatiques que l'acquisition des nouvelles techniques se fait sans opposition aucune. Voilà, on n'a aucune opposition du peuple, tout est fluide, tout est harmonieux. Et puis c'est en ça que l'étude de la science-fiction japonaise est très importante, parce qu'on réalise qu'en réalité, s'il y a bien une chose que nous montrent ces science-fiction japonaises, c'est qu'on n'est pas du tout face justement à ça, et qu'il s'agit d'un des lieux, en tout cas, de contestation de ce discours, de cette idéologie de reconstruction nationale par la technologie. Voilà, je ne sais pas si par rapport à ça, on a des commentaires.
Je peux, oui. Ce que je voulais dire, ce qui m'a frappé, je connais mal le Japon, mais ce qui m'a frappé dans la technologie japonaise en ce qui concerne la robotique en particulier, ça c'est un domaine que j'essaye de suivre, c'est la production de robots humanoïdes. Alors que dans les travaux occidentaux et même américains, les humanoïdes, les robots humanoïdes sont plutôt laissés de côté. Les Japonais ont été très fiers, à juste titre, de nous montrer des robots jouant du piano, montant et descendant les escaliers, enfin donc ressemblant à l'humain. Or, ça pose, alors peut-être est-ce dans les mangas qu'on trouve la réponse, la question de l'insertion de tels robots dans une société. Alors, ce que nous savons en ce qui concerne les sociétés occidentales, c'est qu'un certain nombre d'études, je n'en connais pas de françaises malheureusement, mais enfin, un certain nombre d'études ont montré que les Occidentaux, enfin les Américains et les Anglais en particulier, acceptaient très mal des robots humanoïdes, à une exception près, qu'on a pu d'ailleurs constater les années précédentes à Nantes, ici même, aux Utopiales, les enfants qui était toujours absolument enchanté du petit robot dont j'ai oublié le nom. Mais alors, il se pressait pour le voir, lui poser des questions, enfin, etc. Mais en revanche, par exemple, l'idée d'utiliser des robots pour s'occuper des humanoïdes, hein, je dis bien humanoïdes, pour s'occuper des personnes âgées, etc., rencontrerait des objections, des obstacles très fondamentaux. Les êtres humains en Occident n'ont pas tellement envie d'être aidés, soignés par des robots qui leur ressemblent.
Oui, bah, pas mieux.
Je rebondis.
Parce qu'en fait, il y a deux grandes figures. De la modernité, du futurisme, il y a le robot et il y a le cyborg. C'est-à-dire que et de la même manière, il y a deux acceptions très, enfin ça a été accepté de façon très différente en Occident et au Japon. Pour l'Occident, c'est toujours une sorte d'agression par la machine. Et le cyborg, c'est l'agression intime, puisque le métal rentre dans la chair, l'électronique rentre sous la peau, etc. Et c'est vécu de manière, ça peut être vécu de manière violente. Par exemple, les Borg, les Borg de Star Trek. À un moment, je crois que c'est dans Explorer, il y a Seven of Nine qui est une Borg. Qui se rappelle de la douleur des opérations qui lui ont, ou quand ses organes ont été vidés petit à petit et remplacés par des machines. C'est d'abord on a du mal à s'abstraire de notre forme humaine et de notre essence, en fait. Et au Japon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une perte, en fait. Il n'y a pas la notion de perte qu'il y a quand on parle de l'insertion de la robotique dans l'humain. Ça vient peut-être d'un fond animiste, je ne sais pas, ou qui fait qu'un cyborg... Peut-être, ici, un cyborg, c'est mi-homme, mi-rien, mi-objet. Et au Japon, non, j'ai l'impression que c'est autre chose. Dans Ghost in the Shell, par exemple, c'est pas vécu de façon aussi traumatique qu'ici, j'ai l'impression.
Oui, mais enfin, je crois qu'il faut quand même faire une grande différence entre cyborg et robot.
Les robots, c'est ce que je fais, oui.
Non humanoïdes sont extraordinairement présents dans nos usines, dans notre actualité, oui. Aussi bien aux États-Unis, en France qu'au Japon, qu'en Allemagne. Enfin, ils représentent une force de travail colossale. Le cyborg, dans l'état actuel des choses, à moins qu'on considère une prothèse de hanche, comme je l'ai entendu tout à l'heure, comme un début de transhumanisme, ce qui me paraît d'une absurdité totale, à moins donc qu'on considère ça, ça reste dans la science-fiction. Tandis que le robot, encore une fois, il existe, et le robot humanoïde existe jusqu'à un certain point, même si, à ma connaissance, il a peu d'applications sociales ou industrielles. Mais donc, cyborg et robot sont deux choses très différentes.
Alors, pour compléter, je pense que c'est très intéressant, en fait, cette question de la surproduction dans les laboratoires japonais de robots anthropomorphiques. Oui. Particulièrement parce qu'à un moment, ça a été un gros, gros, gros problème pendant la période en fait du désastre de Fukushima, donc le grand tremblement de terre du Tohoku, où il y a eu pour le coup une nécessité vraiment immédiate d'avoir des robots qui sont à même en fait de marcher dans les débris, marcher dans les décombres, et aussi tout simplement juste de tourner des valves. Et voilà, Honda, les laboratoires Honda avaient uniquement un robot qui était capable de servir du thé. Il y avait vraiment une pénurie de robots et ça a pris un certain temps. Il y a eu, à mon avis, aussi une forme de déchirure. J'étais dans le pays à l'époque. Il y a eu aussi une forme de déchirure un peu nationaliste d'accepter d'aller demander au DARPA, donc aux Américains, aux Nord-Américains, leur robot à eux pour justement aller faire des opérations de sauvetage, enfin pas de sauvetage, mais de manipulation, donc à Fukushima. Donc ça a été une sorte de réveil en fait de cette surproduction ou du fait que voilà on a trop travaillé sur ces robots en anthropomorphiques, ou alors en tout cas il fallait un petit peu compléter, disons, le parc robotique japonais. Et puis sur l'idée donc de l'incursion du métal dans la chair, donc dans l'intimité du corps. Ça rebondit un petit peu sur la suite de ce que je voulais aborder. Je pense qu'effectivement, il y a aussi eu tout un travail dans cette idée de reconstruction nationale par la technologie, donc de discours de reconstruction nationale par la technologie, d'essayer de segmenter, en fait, de bien segmenter les genres, donc en termes de gender, donc hommes et femmes, à besoin, en fait, de productivité. Et on a de manière très très claire, c'est un historien culturel, donc Yoshimi Shunya, qu'on parle bien mieux que moi, qui montre en étudiant notamment la publicité japonaise des années 50 puis des années 60, la manière en fait dont on a associé en fait le corps féminin à certaines formes de technologies qu'on va appeler technologies de l'intime. Avec l'idée après évidemment de les prolonger par exemple au Walkman, au Tamagotchi, à la Game Boy, enfin voilà, tout ce qui vient en fait s'approcher du corps, qui rentre éventuellement dans la chambre de l'enfant ou dans le contexte familial. Et on va très clairement en fait distinguer attribuer en fait aux deux genres en fait quelle technologie est nécessaire à qui pour augmenter justement cette productivité du peuple. Et donc la femme, et ici donc, les exemples sont assez flagrants puisque l'actrice Hideko Takamine, que vous avez peut-être vu dans des films de Mikio Naruse comme Nuages flottants, qui sont des chefs-d'œuvre du cinéma japonais, en tout cas à mon goût, apparaît énormément, systématiquement, combiné avec ce que la presse et puis aussi le gouvernement se sont mis à appeler donc, les trois trésors, les Sansu no Jingi, qui font directement, ça rappelle un peu cette idée d'animisme, ce rapport à la religion, qui font directement référence aux trois trésors impériaux, l'épée, le miroir et la perle Magatama, qui sont les trois attributs de l'empereur. Et ben voilà, tout à coup, la presse va réinjecter ça en disant, ben voilà, les trois trésors de la femme, c'est au milieu des années 1950, une TV noir-blanc, une machine à laver et un frigo. Et à la fin des années 60, on a une transition. Évidemment, il faut quand même changer pour le coup l'acquisition. C'est une voiture, de l'air conditionné et une télévision couleur. Et donc, on retrouve vraiment systématiquement ça qui est convoqué dans la presse, cette nécessité justement de combiner ces trois trésors de l'intime. Et je pense que s'opère aussi ici déjà en fait des discours de lien en fait entre technologie, technique. Outils de l'intime et corps. Côté homme, ou plutôt côté garçon, voilà, je vous ai donné qu'un exemple, évidemment, on pourrait trouver aussi d'autres manières en fait, de montrer comment on va essayer de mobiliser le genre masculin dans des formes de productivité au Japon. Donc là, l'exemple que je vous ai pris, c'est l'exemple de l'équivalent d'un PIF magazine. Au Japon, donc c'est le magazine Shonen qui signifie donc jeune garçon. Pour ceux qui arrivent à voir, vous voyez effectivement Astro Boy sur le casque du garçon. Alors là, l'idée, c'est de montrer aussi évidemment les imaginaires de l'espace. On a aussi la présence évidemment d'une arme, ce qui peut être plutôt impressionnant. Enfin, on est en 1960. On défend beaucoup le Japon de l'après-guerre sous des termes plutôt de pacifisme. Hein, un pays qui n'a plus le droit de prendre les armes, de mobiliser une armée, qui a uniquement le droit donc de s'autodéfendre à partir de 1954, si je ne m'abuse, de manière assez étonnante, exactement au même moment que va sortir le premier film de Godzilla. D'ailleurs, c'est assez intéressant. En tout cas, la même année, les forces d'autodéfense apparaissent que le film de Honda. Et puis là, l'idée, c'était donc de montrer, alors j'aurais beaucoup plus de couvertures que j'aurais pu vous montrer, notamment des couvertures de ce magazine des années 50, où systématiquement, on va présenter le jeune garçon sur un avion de chasse, sur un char d'assaut, dans un avion. On va vraiment lier en fait cette masculinité, évidemment aussi face à des machines de travail et autres, on va lier en fait cette masculinité à la productivité dirigé vers aussi un contexte international, un contexte d'exploration. Enfin voilà, l'homme est dirigé vers l'extérieur, la femme est plutôt dirigée vers l'intérieur, vers l'intime.
C'est un garçon ou une fille ?
C'est un garçon ou une fille ?
C'est un garçon. C'est un garçon. Alors évidemment, on travaille plutôt sur des codes en fait du garçon. Comment dire ? On va pas travailler sur la virilité, on va plutôt travailler justement sur la pureté, hein, sur un visage plutôt immaculé. Et autres. Mais la même question m'a été posée hier, donc je vois que c'est pas facile. Plutôt effectivement une idée un peu de poupée, voilà, de quelque chose de très très immaculé. Puis donc il y a cette espèce de double mouvement en fait qui s'engage et qui est, à mon avis, très présent en fait dans ces magazines et qui va se trouver prolongé une fois de plus dans cette idée de marquer une continuité. Hein. Alors, sans rentrer trop dans le détail, avant, je vous ai parlé des procès de Tokyo. Au Japon, il y a aussi un certain travail de mémoire qui doit être fait, en partie peut-être aussi des Nord-Américains, puisqu'on n'a pas eu un processus similaire à ce qui s'est passé à Nuremberg. C'est-à-dire qu'en fait, les criminels de guerre ont été incarcérés, les procès de Tokyo ont eu lieu. Mais avec l'arrivée du macartisme et la peur de la montée, notamment du Parti communiste et du Parti socialiste au Japon, on va réouvrir les prisons en 1947 et 1948 et on va faire ressortir des politiciens d'extrême droite sur la scène politique japonaise. Et ces personnes vont réactiver leur réseau, notamment dans la pègre japonaise, ce qui va évidemment provoquer des situations de, de cassage en fait direct où il va y avoir des tabassages de partis, notamment des partis de gauche, ce qui va faire qu'encore jusqu'à maintenant on a un système japonais, une démocratie relative, puisque on a à peu près le même parti au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle.
Oui, mais il me semble quand même que la même situation à peu près vis-à-vis du communisme s'est posée en Allemagne. Oui. Or, la réponse n'a pas été du tout la même. L'Allemagne a accepté profondément sa culpabilité. Elle a payé d'ailleurs très cher et elle continue à accepter sa culpabilité. Alors que, d'après ce que je lis enfin, dans la presse américaine, enfin européenne et anglaise, le Japon semble toujours avoir du mal à accepter sa culpabilité dans le massacre de Nankin, dans bien d'autres atrocités. Il y a les fameuses visites d'hommes d'État très importants, enfin du Premier ministre, j'espère ne pas dire de bêtises, à un sanctuaire où reposent les criminels de guerre. Ça pose quand même problème. Il n'y a pas de symétrie entre les deux grands perdants de la Seconde Guerre mondiale, entre la position allemande et la position japonaise.
C'est ça. Il faut vraiment, là, c'est très important de ne pas forcément marquer une rupture, mais vraiment de penser ça en continuité. On retrouve quelques années plus tard, dans les années 70, vous avez au pouvoir un premier ministre qui s'appelle Nakasone, qui est le petit-fils d'un criminel de guerre. Qui est même carrément un ancien criminel de guerre qu'on retrouve au pouvoir. Puis après, les dynasties familiales se retrouvent dans la politique.
Côté science-fiction, la science-fiction japonaise est une émanation de la science-fiction américaine.
Oui.
À quel moment est-ce qu'il commence à se distinguer? On parlait de Ghost in the Shell, c'est beaucoup plus récent. Effectivement, on a des robots. Enfin, On a un héros femme d'ailleurs, alors que là, on avait l'impression. Alors bon, effectivement, la confusion pour ceux qui ne savent pas. Pour moi, c'était une fille hein, qui avait sur la couverture, ce qui est pas plus choquant que ça quand on voit que la plupart des magazines américains aiment bien mettre des jolies filles en évidence sur leur couverture. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, on a un passage de la femme qui est à la télé, enfin, qui a sa télé, son frigo, sa voiture, son air conditionné, à, dans Ghost in the Shell, une femme qui est le major, qui est indiscutablement la figure forte qui mène la danse. Comment on fait cette bascule-là? Est-ce que cette bascule se fait... Est-ce qu'il y a une bascule déjà, ou est-ce que c'est présent depuis toujours dans la culture et c'est juste l'émergence plus visible d'une femme forte qui s'impose, ou enfin voilà, je laisse ouvert la question, je ne sais pas si je suis très claire.
Je vais compléter en quelque sorte cette question parce que je me posais une question alors, totalement incorrecte, je vais me faire huer, mais est-ce que la femme n'est pas finalement le robot intime japonais?
C'est en partie pour ça que je faisais ce détour justement par ce lien entre femmes et technologie de l'intime en fait, pour montrer aussi comment se construit en partie aussi ces discours en fait, où on va rapprocher les technologies du corps, on va rapprocher les technologies de la chair de la femme, pour pas uniquement se contenter en fait de faire un bond avec les représentations actuelles effectivement qu'on a, plutôt de technologies anthropomorphisées, mais plutôt sous des corps un peu de femmes, hypersexualisées ou autres, mais de montrer comment aussi ça se... Il y a aussi un travail de continuité qui se construit petit à petit où très très tôt, on va associer corps féminin et technique et technologie. Et ce qui va en partie... Oui. Est-ce qu'il va en partie peut-être conduire... Alors, c'est évidemment une question complexe, puisque pour Ghost in the Shell, on a aussi... Encore, ça devient encore plus complexe maintenant avec les nombreux auteurs qui se sont emparés de la franchise, mais on a effectivement un discours de Mamoru Oshii, donc le réalisateur du film, mais aussi de Masamune Shirow. Masamune Shirow, qui est l'auteur du manga, qui lui a une position beaucoup plus nationaliste. Et Mamoru Oshii, qui lui est plus un peu l'enfant des révoltes estudiantines à Tokyo à la fin des années 60. Et qui va donc aussi essayer de transformer un peu son approche de l'œuvre de Masamune Shirow en venant y aussi ajouter sa patte à lui en fait.
Oui, c'est marrant parce que moi, pour le coup, mon appréhension première de la, des mangas japonais, ça a été plutôt des trucs féministes, en fait. Moi, je suis tombé sur une cassette vidéo, j'étais en première, c'est en 85, de Nausicaa, en fait, de Miyazaki, qui ne s'appelait pas du tout Nausicaa, d'ailleurs. C'était une cassette vidéo, je ne sais pas comment c'était sorti, mais le nom, c'était Le Vaisseau Pirate. Vraiment, aucun rapport avec... Il n'y avait pas de vaisseau pirate, c'était la pure SF futuriste. Et moi, ça a été un... il s'avère que le héros, l'espèce de héros prophète, est une prophétesse, est une héroïne prophétesse. Donc, il n'y avait rien de plus féministe que cette histoire-là, en fait. Et moi, ça a été personnellement, je peux juste transmettre mon expérience de lecteur, mais qui a été quand même fondateur aussi de ma. De mon désir de faire de la SF, ça a été d'un côté Nausicaa de Miyazaki et de l'autre côté Akira de Otomo. Oui. Et dans les deux cas, dans le premier cas, j'ai eu vraiment une figure féminine que je trouvais pas en fait dans la SF occidentale. Et puis de l'autre côté, une SF avec des émeutes qui sont justifiées. Qu'on trouvait pas non plus en fait. Donc c'était d'un côté une SF sociale. Alors pour le coup, la femme dans Akira est pas, son sort est pas très enviable.
Non, pas vraiment non.
Mais c'est pas le cas dans Nausicaa quoi. Donc donc finalement, moi j'ai une vision plutôt progressive en fait de alors, peut-être que c'est la génération de mangaka qui voulait ça quoi.
Mais... Alors, j'ai pas vraiment de réponse vraiment définie parce que j'ai l'impression qu'on s'attaque aussi à des œuvres qui sont où la figure de l'auteur est très forte, où on a justement une envie de révolte ou de contre-courant. Enfin voilà, c'est vraiment des œuvres assez avant-gardistes à contre-courant et autres. Je viens rajouter, je nous ramène de nouveau un petit peu à travers le temps. Sur ces questions justement de marquage des corps hommes-femmes, pour parler de nouveau en fait d'une période qui me semble aussi clé, donc de nouveau cette occupation alliée où on a deux moments qui me semblent aussi intéressants dans la manière dont ça va aussi structurer, parce que on parlait avant du moment d'émergence de la SF japonaise. Évidemment on trouve avant donc l'après-guerre japonaise, on trouve déjà de la science-fiction au Japon, hein, ce que maintenant les chercheurs appellent de la Koten SF, qui est un terme que j'aime pas trop, qui est un peu de la SF classique. Hein, ils utilisent le terme de classique, voilà, il y aurait de la SF classique, et puis dans l'après-guerre, tout à coup, on part dans une autre SF, alors que de nouveau, on a plutôt des mouvements de continuité. Et donc, qui pour moi sont deux petites anecdotes de peut-être aussi du travail, aussi de la responsabilité des puissances alliées lors de la période d'occupation japonaise, qui va forcément être un peu fondatrice dans les discours gouvernementaux. Il y a deux choses. Déjà, les Américains, quand ils sont arrivés sur le sol japonais, ils étaient très dérangés par une chose, qui était qu'ils trouvaient que le marquage des genres, corporellement, n'était pas assez fort. Les hommes ne ressemblaient pas assez à des hommes, et les femmes ne ressemblaient pas assez à des femmes, selon leurs critères. Et donc, comment résoudre ce problème ? Leur réponse était il faut faire manger de la viande aux gens. Il faut que les formes explosent. Problème, c'est que ça coûterait très très cher en fait de faire amener du bœuf des États-Unis. Il n'y avait pas assez de vaches. Enfin, le pays était évidemment dévasté. Donc, on va activer en fait l'industrie de la chasse à la baleine. Si vous discutez avec des gens qui étaient à l'université à l'époque au Japon, à midi, systématiquement, on mangeait un steak de baleine. Pour que justement les hommes ressemblent plus à des hommes. Évidemment, les universités étaient principalement occupées aussi par des hommes, donc on cherchait aussi à évidemment augmenter la corpulence, transformer les corps d'une certaine manière. Et donc ça, c'est un premier exemple que je trouve assez intéressant dans cette nécessité.
On n'oserait jamais faire ça en SF, en fait, hein, finalement.
On est presque face à un scénario de SF.
Ouais. Et ça expliquerait pourquoi les Japonais sont les seuls à continuer à chasser la baleine de manière systématique et très excessive par la population individuelle. Ouais. Ouais.
C'est vraiment un moment clé, en fait, de transition, d'industrialisation de la chasse à la baleine, qui est maintenant un problème clé dans les rapports, par exemple, avec l'Australie, où vous savez peut-être que le gouvernement australien dit aux Japonais, tant que vous n'arrêtez pas de chasser des baleines, on n'entre pas en discussion avec vous. Et donc voilà, donc en partie, l'axage s'est passé là aussi, sur des problématiques de transformation des corps. Par, euh, par les techniques industrielles. Et puis, deuxième exemple rapidement aussi, qui était donc la responsabilité du comité de censure, c'est qu'on trouvait aussi que les Japonais ne s'embrassaient pas assez. Voilà, qu'il n'y avait pas assez de... On ne batifolait pas assez selon les critères, évidemment, selon les critères nord-américains et en partie européens, même si là, c'est énormément des décisions du GHQ américain. Et donc, on va utiliser le cinéma, on va utiliser la technologie du cinéma pour privilégier la diffusion de films qu'on va appeler des seppun eiga, donc des films de baisers, où systématiquement, le climax, le grand moment final du film, c'est un couple qui va s'embrasser devant un soleil couchant, langoureusement, pour vraiment venir un peu, de manière choc, imposer en fait cette pratique qui n'était pas du tout courante en fait dans même les usages des corps dans l'érotisme japonais qui évidemment apparaissait mais qui n'était pas aussi marqué. Et donc il y a eu aussi toute cette décision qu'on peut vraiment retracer hein, dans les décisions du comité de censure du GHQ de vraiment privilégier ce genre de film puisque la démocratie japonaise, en tout cas c'est l'idéologie qui est défendue par les Américains, la démocratie japonaise allait pouvoir être atteinte par un bel équilibrage homme-femme dans les rapports érotiques.
Est-ce que la SF suit cela ou au contraire est en réaction par rapport à cette volonté de transformation des corps ? Est-ce que c'est visible quelque part dans la littérature ?
Alors... dans la littérature, j'aurais peut-être plus de mal à me prononcer, mais effectivement, on a déjà Sakio Komatsu qui écrit un de ses livres phares avant d'écrire La submersion du Japon, qui écrit déjà dans les années 50 Nihon Apache Zoku, donc les familles apaches japonaises, qui présentent des tribus d'Osaka qui se nourrissent de métaux. On a déjà un peu presque du proto-cyberpunk et on est déjà... c'est une de ses premières œuvres assez centrale, mais je pense que un des indicateurs très forts, ça va être le manga, donc avant l'arrivée dans les années 60 des animations télévisées, et puis aussi beaucoup le cinéma. Un des lieux de révolte, ça va beaucoup passer par le cinéma notamment de Honda, le cinéma de la Toho. On aura des réactions directes, où par exemple vous allez avoir une contamination de la pêche par des tests nucléaires américains. En 1954. Et puis, droit derrière, vous avez un film de Honda qui s'appelle Bijou to Ekitai Ningen, donc la belle et l'homme liquide, qui commence, donc le film commence sur l'arrivée d'un bateau, d'un tonnier contaminé, dans lequel justement il va y avoir le personnage principal qui est devenu un homme liquide qui se déplacera dans les rues de Tokyo à partir de ça. Donc on va très très vite avoir le cinéma, et notamment le cinéma qu'on appelle de genre, qui va recontextualiser ou qui va plutôt lutter, disons, contre parce qu'en parallèle, on a vraiment une presse qui va énormément défendre le nucléaire. Alors, alors là, on fait un bond beaucoup plus loin. Je m'excuse, je vous passe un petit peu certaines slides. La défense du nucléaire, c'est une problématique évidemment très importante et en lien aux imaginaires technologiques au Japon. Là, vous avez un exemple donc, d'un journal japonais, Asahi Shimbun, donc, un peu plus d'un an après le désastre de Fukushima. Où vous allez avoir des militants pro-nucléaires, donc vous avez même des manifestations à Tokyo de militants qui défendent le nucléaire, qui vont utiliser la figure d'Astro Boy, qui a un cœur nucléaire, qui fonctionne avec un réacteur nucléaire, ce qui n'était évidemment pas du tout la volonté de l'auteur, hein, de tenir un discours pro-nucléaire, mais bon, voilà, la création de son personnage s'est quand même inscrit dans des discours médiatiques pro-nucléaire. Donc peut-être que ça l'a dépassé, mais au final, il a quand même construit à partir de là. Et donc cette figure-là, encore aujourd'hui, cet imaginaire technologique est remotivé politiquement sur la scène publique. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça ?
Peut-être par rapport au cyberpunk, oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé.
Ah, oui.
La SF japonaise est une spécificité, en tout cas en termes de cyberpunk. On en parlait avec Laurent il y a quelques temps. Laurent, tu veux bien...
Pour moi, pour moi, c'est indissociable, en fait. C'est assez curieux, d'ailleurs, de voir que les Américains qui ont inventé l'informatique, on peut le dire, enfin, en tout cas dans ses formes modernes, ont eu beaucoup de mal, en fait, pendant très longtemps, à représenter ça au cinéma. C'était souvent très ridicule. Des virus représentés par des cubes qui... Enfin, c'était n'importe quoi. Et souvent, l'informatique au cinéma, c'était n'importe quoi. Et les Japonais, ça a été les premiers à vraiment à avoir une vision réellement moderne du réseau, d'une informatique futuriste. Et voilà, et même avant Ghost in the Shell, d'ailleurs, hein, c'était vraiment... et alors, les Américains ont fini par rattraper le retard. Maintenant, les films sont tout à fait corrects au niveau des représentations, des interfaces et des interfaces homme-machine, etc. Mais ça a été quand même longtemps l'apanage du Japon, quoi.
Ouais, alors je pense que c'est tout à fait... c'est tout à fait notable, hein, dans beaucoup de... En tout cas, dans le cinéma japonais... On a effectivement très très rapidement, beaucoup en lien aussi avec l'urbain, hein, beaucoup en lien aussi avec l'oppression urbaine dans les années 80. Ben, Ghost in the Shell s'inscrit en fait, quand il sort en 95, dans les suites de tout un corpus, avec notamment Akira, mais aussi tout le cinéma de Shinya Tsukamoto, autour du cyberpunk. Mais de manière aussi assez intéressante, je pense qu'il s'engage en fait dans les années 70, pour en revenir aussi à ces magazines de la jeunesse, mais aussi toute cette production d'imagerie populaire, une sorte de une passion, je dirais, en 70, pour des plans de coupe, en fait. Vous trouvez énormément d'artistes dans ces magazines qui vont prendre énormément de plaisir, en fait, à représenter l'intérieur des systèmes, l'intérieur des machines. Vous avez vous pouvez vous acheter des posters absolument géniaux. Vous voyez tous les monstres de Godzilla ou tous les monstres d'Ultraman ou tous les robots géants japonais qui sont découpés, où on va montrer l'intégralité des rouages, on va penser l'intérieur, on va penser la machinerie, on va vraiment penser. Et je pense que ce mouvement-là, il s'inscrit aussi dans un plaisir de filmer le rouage, filmer le boulon, filmer en lien évidemment avec la chair, mais c'est vraiment ce qu'il y a en dessous. Et ça commence déjà à ce niveau-là. On le voit aussi beaucoup dans les représentations des robots géants, où on va tout à coup avoir une transition vers des franchises que sont Gundam et Macross, où on va vraiment chercher à représenter le robot de manière, avec énormément de guillemets, réaliste. Donc montrer l'intérieur aussi de la machine. Et je pense que les deux choses se mélangent en fait avec l'arrivée de ces représentations cyberpunk.
Il nous reste un petit quart d'heure. Je propose qu'on laisse au public la possibilité de poser ses questions et de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, il y a une question ici. Est-ce que ce serait possible de... Merci beaucoup.
Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Je voudrais revenir sur le début de la conférence où on discutait de la distinction entre robot et cyborg. Parce qu'il y a un manga qui me vient à l'esprit pour cette distinction, un manga assez célèbre dans le cyberpunk qui est Genmu, Battle Angel Alita, dont le film sort d'ailleurs cette année. Et dans ce manga, l'héroïne à un moment donné se pose une question, c'est à partir de quel moment dans la cyborgisation on devient un robot ? Parce qu'à un moment donné, certains personnages sont tellement cyborgisés qui n'ont plus de partie organique. Donc à partir de là, comment on appelle ces choses ?
Il y a ça aussi dans Ghost in the Shell, hein, d'ailleurs, hein, où il y a un personnage qui se fait blaster, il dit « Ah zut, encore 3% d'organique en moins, de pièces organiques en moins. » Donc oui, c'est au... J'ai jamais eu l'impression que le robot posait problème dans la culture japonaise. C'est le cyborg qui en pose, en fait. C'est le... Il n'y a pas de problème, en fait. À partir du moment où en fait, c'est le moment de bascule qui est problématique. À partir du moment où on a défini le truc, il n'y a plus de problème, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Moi, enfin, j'ai toujours eu cette impression-là. Moi.
Oui, c'est très intéressant, cette quantification, hein, de combien de pourcents, à combien de pourcents on est dans la machine, à combien de pourcents on reste dans l'humain, qui est uniquement en fait, validé par le nombre de métal qu'on a à l'intérieur de notre corps, le nombre d'éléments. Moi, c'est vrai que ça me fait revenir aussi une scène très forte donc de ce manga qui résonne énormément aussi avec la problématique du suicide au Japon, qui est le moment vers la fin donc des neuf volumes où le personnage principal réalise qu'en fait elle arrive dans une société utopiste dystopique où en fait on a dans la rue des machines à suicide, où on a tellement normalisé en fait on est tellement en fait dans l'opulence à la place d'avoir des toilettes publiques, on a des espaces en fait où on peut juste se débarrasser de notre corps qui d'ailleurs je crois est projeté vers la zone du bas. Ça sera évidemment très intéressant de voir comment Robert Rodriguez va s'emparer de l'œuvre. Alors là, on est encore dans un sujet complètement différent, mais qui est très intéressant aussi dans les représentations des deux industries, hein, enfin de l'industrie japonaise et puis de l'industrie hollywoodienne. Ça a été, en tout cas pour ma part, un gros échec l'adaptation de Ghost in the Shell. Je ne sais pas si ce serait rigolo d'avoir des contestateurs, mais l'adaptation de Ghost in the Shell à Hollywood, on verra bien si Robert Rodriguez arrive à un petit peu mieux s'en tirer avec ses problématiques. Mais même au-delà de ça, enfin, on est vraiment dans des... On est quand même face à des œuvres qui sont profondément ancrées dans des années 80 japonaises. On est dans une lutte de la jeunesse qu'on retrouve aussi énormément dans Akira. Qui va mener aux années 90, qui sont des années où, il ne faut pas oublier, les années 90 au Japon, c'est des années où il y a un mouvement millénariste très très fort qui se met en place, qu'on a beaucoup retrouvé dans Evangelion, où on a toute une pensée qui croit que la fin du monde est nécessaire pour reconstruire le monde. On a toute une culture populaire qui va désirer une fin du monde, ce qui va conduire notamment à la création de la secte Aum, hein, qui va être connue pour ses attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo. C'est assez phénoménal. Enfin, d'ailleurs, il vient d'avoir l'exécution d'un de ses dirigeants. Mais si vous allez dans la pensée de la secte Aum, vous avez réellement en fait une pensée qui est entièrement construite autour d'œuvres de SF. Où certains des objectifs de la secte, c'était de reconstruire des lasers de Uchusenkan Yamato, qui est une œuvre de SF japonaise des années 70, où vraiment il y a cette espèce de désir en fait de réaliser des univers SF et de construire entièrement, disons, une pensée religieuse ou un fanatisme religieux autour de ça.
Alors que nous ne sommes pas si méchants, en fait.
Vous pourriez l'être plus.
Nous, auteurs.
Merci.
Mais il y avait ça dans Akira, hein, d'ailleurs. Le Néo-Tokyo, ça part d'abord d'une éradication.
C'est ça, oui. Alors, ça devient complètement fou, hein, ce millénarisme dans Akira, puisqu'on détruit, je crois, trois fois la ville.
Ouais.
Tokyo est détruit trois fois. On a une sorte de réactivation de la destruction. Vous avez énormément dans les imaginaires japonais, hein, ce que moi j'appelle le cycle de redestruction-reconstruction, qui est encore plus présent dans les séries télévisées avec des robots géants ou les Ultraman, où chaque épisode, la ville est détruite, on la reconstruit, on la redétruit, on la reconstruit. Enfin, ça a été accéléré. Vous aviez d'abord ça dans Godzilla, puis après encore plus, où vous avez des immeubles entiers avec des robots qui tombent contre, et on la reconstruit, on la redétruit. Et donc on revit à chaque fois le moment cathartique de la destruction de Tokyo et des villes japonaises.
Si ça correspond à quelque chose, mais sur un mode beaucoup plus soft. Dans la science-fiction américaine, d'après les années 50, enfin des années 50 et quelques décennies suivantes, qui était que la guerre mondiale, la guerre nucléaire généralisée, finalement, ouvrait sur la possibilité d'une renaissance de l'humanité. C'était assez étonnant. C'était pas violent, c'était pas, mais enfin, bon, c'était un phénomène de table rase, et ça m'a beaucoup frappé dans la science-fiction américaine. Ça a pratiquement disparu depuis.
Alors justement, est-ce que le Japon c'était la même vision? Parce qu'il y avait Walter M. Miller qui imaginait comme ça un cycle de destruction, mais en fait finalement c'était plus une malédiction humaine. Qui était de tout détruire, de reconstruire lentement, de réacquérir la technologie qui lui permettait à nouveau de se redétruire, etc. Mais c'était juste l'incapacité de l'homme à s'élever moralement, quoi.
Moi, je vois ça comme aussi en partie une réponse des artistes et de la jeunesse japonaise à un système uniparti, quoi. Enfin, on est vraiment dans une société où il faut imaginer la prise de décision politique. Elle est pratiquement nulle. On n'a pas l'impression dans la société qu'on peut réellement s'engager, que le vote a une quelconque présence. Donc il y a vraiment cette idée de dire, ben, la seule solution, c'est de faire table rase. C'est de faire table rase et de tout reconstruire. Et l'attentat de la secte Aum, et puis en grande partie aussi la crise asiatique, va mettre à bas en fait cette idéologie pour finalement arriver maintenant dans une nouvelle forme à mon avis, d'imaginaire, science-fictionnel japonais, où on va plus insérer du ludique dans de la réalité. Vous voyez probablement certaines œuvres, c'est ce qu'on appelle le modèle Battle Royale, où la réalité devient jeu, où la seule manière, en fait, d'accepter la réalité, c'est à travers des systèmes ludiques. C'est on vient amener en fait la fiction dans la réalité et on la comprend qu'à travers ça. Vous avez un corpus immense de cinéma japonais où c'est juste des jeux de la mort. C'est juste, ça commence, c'est un, deux, trois soleils où si on se retourne pas au bon moment, ben on meurt et autres. Donc on a cette espèce de répétition encore maintenant où la réalité devient justement un jeu de la mort.
Une autre question? Madame.
Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur quand l'Ouest rejette les formes humanoïdes des robots, est-ce qu'il y a des degrés dedans? Parce qu'il y a des robots qui ont la forme humanoïde et il y a des robots qui ont la forme humanoïde avec un visage humanoïde. Et il y a aussi des robots qui veulent servir les gens, mais ce sont ou bien des mâles ou bien des femelles, on les reconnaît par la voix que le créateur leur a donné. Est-ce qu'il y a des degrés d'horreur dans l'Ouest envers quelque sorte de robots humanoïdes et moins envers d'autres?
Alors, l'idée, ce serait de dire qu'en gros, on aurait en tout cas qu'au Japon, la Uncanny Valley, le moment qui fait que tout à coup on se sent mal face à un robot qui est censé représenter l'humain serait donc plus tolérante en fait, serait peut-être plus tolérante au Japon. Je pense pas réellement que c'est le cas. Par contre, je pense qu'ils sont très intéressés à déplacer en fait ce curseur, à trouver des moyens en fait d'accommoder en fait les individus, d'accommoder le peuple en fait à ça. Parce qu'on a des vrais, les enjeux de la robotique japonaise sont réels en termes de démographie. La démographie chute. On veut plus accepter beaucoup d'émigration, alors qu'il y a une véritable demande, notamment par exemple des Philippines, qui permettrait de remplir les hôpitaux, qui ont énormément de problèmes par rapport à ça. Et c'était d'ailleurs des enjeux aussi suite à Fukushima, c'est-à-dire une partie de l'eau contaminée japonaise a été mise dans les mers des Philippines. Et puis le deal, le contrat avec le Japon, c'était d'ouvrir un petit peu plus les frontières pour faire venir un tout petit peu plus de Philippins dans le pays. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu par rapport à ça, et je pense, et particulièrement Abe, donc le premier ministre actuel, c'est pas pour rien que dans ses discours politiques, on a très régulièrement le terme d'innovation qui va être remis en avant, et qu'on a la diplomatie culturelle japonaise, mais aussi les dirigeants japonais qui vont défendre cette idée d'harmonie. On va essayer de... C'est pour ça que je me méfie énormément quand tout à coup je tombe sur des articles de presse francophone qui vont vraiment présenter en fait le Japon selon ces critères. Et je pense que c'est en ça qu'il faut vraiment systématiquement faire quand même un peu surgir les œuvres de SF qui montrent en fait qu'en réalité au sein du peuple on a quelque chose de beaucoup plus contestataire par rapport à ça, et que cette inquiétante étrangeté en fait elle est aussi à mon avis présente.
Merci.
Je sais pas si j'ai répondu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors une question devant et puis ensuite une question derrière. On ne va probablement pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais vous aurez le temps de toute façon après d'interagir avec nos invités. La plupart seront en signature dans la librairie, donc n'hésitez pas à prolonger la discussion. La question de monsieur ?
Du coup, là, j'étais assez surpris de vous entendre dire qu'il y avait assez peu de distinction entre le cyborg et l'humain. Enfin, non, pas qu'il n'y avait pas de distinction, mais que c'était très bien accepté. Parce que dans beaucoup d'œuvres japonaises, Ghost in the Shell, on le retrouve un peu, on le retrouve aussi dans Gum, dans Nier Automata, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, il y a vraiment un côté où ils sont toujours en train de parler de l'humanité comme quelque chose de pur, où ils essaient de sauvegarder l'humanité. On le retrouve aussi un peu plus dans l'horreur, où il y a des monstres, où il y a un combat avec des monstres, il faut rester humain contre l'aberration qui est face à nous. Si on devient comme elle, finalement, on a perdu.
Je suis plus que d'accord.
Oui, parce qu'on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Au contraire, c'est à partir du moment où c'est cyborg, à partir du moment où il y a cette frontière, où la frontière entre l'humain et le robot est interne, justement au corps que ça devient problématique. Donc non, c'est plutôt là, on est tout à fait d'accord en fait.
Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres contestataires que vous citez très justement, c'est les œuvres qui marchent le mieux chez nous. Il y a aussi tout un corpus qu'il faut évidemment pas oublier de science-fiction japonaise extrêmement nationaliste, où on a vraiment un amour de l'armement, une sorte d'envie de remilitarisation du pays qui est vraiment transparente. Enfin, évidemment, ce spectre, on le retrouve. L'idée, c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'était de partir de ces discours de diplomatie culturelle et publique des diplomates japonais et du gouvernement qui défendent l'idée justement d'un pays harmonieux entre hommes robots, hommes machines, pour réellement aller prendre en fait des œuvres médiatiques, des productions médiatiques, et montrer qu'en réalité tout ça est beaucoup plus complexe. Et donc de réellement opposer discours gouvernementaux et puis production populaire et imaginaire. Merci.
Il ne nous reste plus de temps, je suis désolée. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. Je vous remercie d'avoir participé par votre présence à cette table ronde. Je voudrais qu'on remercie nos invités.